Alors, cette idée, en fait, de travail sur l'internationalisation, je la dois à un échange que j'ai eu avec Michel Martin, qui est dans la salle, où on s'interrogeait sur la capacité de ces magazines féminins à tout d'un coup s'internationaliser. Et la grande question était, mais comment ce petit magazine français a-t-il réussi à devenir un véritable magazine international et même à devenir le magazine féminin le plus lu dans le monde ? Pour vous donner une petite idée de ce qu'est... Sophie en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Elle, dans le monde, eh bien, ce sont effectivement 46 éditions. 46 éditions qui sont diffusées dans 80 pays. Ce qui représente 21 millions de lecteurs. On en a parlé mercredi, mais il y a une vingtaine de pourcents de ces lecteurs qui sont des hommes. Cela représente aussi, sur le support numérique, eh bien, des millions de visiteurs, des millions d'exemplaires par mois visités, 42 sites, mais surtout des licences internationales qui sont maintenant la nouvelle manière pour Lagardère eh bien, de diffuser cette marque L, de façon à notamment réduire les risques financiers. Ce sont, puisque c'est aussi à la mode, eh bien, des applications pour téléphone mobile ou pour tablette, mais aussi la télévision, notamment pour la Corée et les États-Unis. En fait, l'internationalisation de cette presse magazine, elle a débuté en France. Elle a débuté en 1749 avec un magazine qui s'appelait Le Magazin français littéraire et scientifique, qui a commencé à propager à l'étranger eh bien, la mode française. C'est d'abord une internationalisation qui est basée sur la contrefaçon. Et puis une industrialisation de ces magazines grâce à des collaborations qui sont menées à l'étranger avec des éditeurs étrangers. Et arrive à ce moment-là le modèle américain autour de Vogue. Je cite la thèse notamment de Sophie Kurdjian, créée en 1916, produire un premier numéro destiné au public américain, pardon, au public anglais, et qui va surtout, pour la première fois, dans son édition française, eh bien, proposer une adaptation du support. On n'est plus simplement dans une traduction pure et dure et simple. Et l'idée, c'est d'avoir une édition locale qui va proposer un support avec des adaptations en termes de rédactionnel, mais aussi en termes d'image. C'est ce qui va être propagé un peu plus tard par le Harper's Bazaar ou encore par Cosmopolitan, qui sont les trois grands autres magazines américains qui sont diffusés dans le monde. Donc cette communication va s'intéresser à comment ce magazine français, ce French Magazine, est-il devenu le titre marque le plus lu dans le monde ? Pour essayer de répondre à cette interrogation, je vais d'abord m'intéresser à sa reconnaissance internationale avant que les véritables éditions internationales existent, au phénomène de publicitarisation qui a permis dans les années 80 que ce magazine existe à l'étranger, notamment grâce aux annonceurs, et enfin à sa glocalisation ou son ethnisation, ce que j'appellerais moi une richesse culturelle qui va être respectée dans ces différentes éditions. Alors cette reconnaissance internationale, elle passe d'abord, et on en a déjà parlé grâce à Sophie ce matin, par sa fondatrice, Hélène Gordon-Lazareff, qui effectivement a publié pendant la Seconde Guerre mondiale des articles dans la rubrique mode du Harper's Bazaar et dans la rubrique femme du New York Times. Et grâce à cela, elle a créé des liens très étroits avec un certain nombre de rédactrices en chef de magazines de mode américains, les plus influents. Et par-delà cette collaboration, son retour en France va permettre de continuer ces collaborations au point que le magazine Times, en 1964, va lui consacrer un article qui s'appelle « Magazine ». Si elle lit, elle lit elle, et on parle notamment de l'élégance de la française, de Madame Pompidou et de sa laitière qui sont bien habillées grâce à ce magazine. La même année, le CBS va consacrer une émission à elle et notamment à sa créatrice. Donc le magazine a une aura qui continue à apparaître et qui émerge notamment dans ces années 60. Ce n'est pas fini. Le Women's Wear Daily, la Bible de la mode américaine, va lui dédier même deux pages à Hélène Gordon-Lazareff pour sa collaboration autour de la mode. Et en 1966, Hélène Gordon-Lazareff va recevoir l'équivalent de l'Oscar de la mode à l'époque, qui s'appelle le Marcus, des mains donc du directeur des magasins Neiman's Marcus, au Texas, pour avoir réussi à faire triompher le style Elle aux États-Unis. Le Marcus est un prix qui est donné plus ou moins régulièrement. Alors, on voit ici une illustration où on voit Yves Saint Laurent le recevoir, Chanel aussi l'a reçu. Et c'est vraiment un honneur et qui marque aussi le fait que c'est une marque internationale qui commence à se mettre en place. D'autant plus que le magazine va lui-même lui consacrer 2 pages dans le numéro daté du 6 octobre 1966, qui s'appelle donc « Vive la jolie France ». Et on y voit, alors vous n'allez pas le voir, mais qu'en fait le magazine est diffusé là-bas au même titre que des collections qui sont sous la marque Elle. Donc une diffusion internationale avant que le magazine soit édité localement. En fait, Elle avait déjà tenté très rapidement, vous savez, il est né en novembre 1945, eh bien, d'être édité à l'étranger. On a une première tentative qui va être un échec en 1946 avec un numéro, vous voyez, c'est un numéro en fait qui est identique entre la France et la Belgique, ce qui explique eh bien l'insuccès de ce magazine qui va disparaître en août 1946, les Belges ne voyant pas l'intérêt d'attendre une semaine de plus pour avoir le même numéro, si ce n'est de la couleur qui varie vaguement entre le vert et le bleu. On a d'autres éditions qui apparaissent. On atteste Evelyne Sulro dans son ouvrage sur la presse féminine, qui évoque en 1963 une édition en langue allemande et publiée à Zurich, et une édition belge imprimée à Liège qui est vendue au Benelux. Alors c'est comme pour la contrefaçon et l'imitation, ce sont simplement des traductions qui sont proposées et une édition qui est totalement délocalisée. Cette diffusion internationale, on va la trouver aussi. Je suis obligée de bouger, sinon vous n'allez pas le voir. Ici, à la fois dans la rédaction administration, vous avez ici l'édition suisse qui est présentée, l'édition belge, aussi une vente aux États-Unis et en Argentine. Et pour les abonnements, on voit ici les abonnements à l'étranger, aux États-Unis, au Portugal, en Suède et plus étrangement en Turquie. Une année plus tard, en 1964, les États-Unis auront disparu, mais on sait qu'ils vont réapparaître en 1966 grâce à la collaboration avec Niman. Et la première forme véritablement de collaboration et d'édition à l'international, c'est dommage que notre collègue japonais n'ait pas pu venir, eh bien, c'est l'édition Han-Han, elle, qui est en fait une collaboration menée en 1970 avec un éditeur local et la fondation d'une filiale par Hachette, pour promouvoir ce numéro Elle Japon. Donc vous le voyez peut-être, donc c'est Anan et en dessous Elle Japon avec ce petit logo fort sympathique. Et en fait Anan va avoir un véritable rôle d'accompagnement dans l'émancipation de ces femmes japonaises qui passent d'un statut féodal à une vie professionnelle en dehors de l'espace privé. Et du coup, il y a tout un enjeu pour ces femmes japonaises. Il s'agit de leur apprendre à s'habiller. Elles ne peuvent pas bénéficier des conseils de leur mère pour s'habiller à l'occidental et pour aller travailler. Et effectivement, il est tout à fait dommage qu'on ne puisse pas avoir la communication de ce collègue. Mais il y a une véritable influence de ce magazine. Un autre collègue japonais, Masayuki Ishita, en juin dernier, me disait qu'elle a véritablement une aura sur le Japon, bien avant que le magazine, en tant qu'édition japonaise, existe, au point qu'il y a eu des produits sous licence, elle, qui ont été vendus au Japon avant cette édition. Et le magazine, elle, connaît au Japon un vrai succès, au point qu'il y a même des cafés avec le logo elle. Alors voici pour ces premières tentatives d'internationalisation, mais c'est surtout le phénomène de publicitarisation qui va permettre au magazine de s'ancrer dans ces différents produits, dans ces différents pays, pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les annonceurs vont faire plus ou moins pression sur le magazine pour qu'il s'internationalise. Ce concept de publicitarisation, on le doit à Valérie Patrin-Leclerc. Elle commence à en parler dès 2004 en tant qu'analyse de l'adaptation des médias à la pensée publicitaire. C'est un concept qu'elle définit plus précisément dans un livre qui est paru l'année dernière qui s'appelle « La fin de la publicité, tours et contours de la dépublicitarisation ». Son idée, c'est que le support est un écrin, surtout dans la presse, mais un écrin de la publicité. Et les magazines vont alors adapter les formats, les contenus, à la nécessité d'attirer des annonceurs et d'accueillir les annonces. D'autant plus qu'on va le voir, dans les années 80, on est dans un contexte difficile d'un point de vue financier. Donc cette adaptation, c'est en fait un aménagement qui est destiné à réduire la rupture sémiotique entre le contenu éditorial et le contenu publicitaire. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien si on est dans un contenu qui est payé par un annonceur ou si on est dans un contenu qui est réellement fabriqué par le magazine. Pour preuve, en 1983, Hachette, qui a été racheté par Lagardère, est donc contacté par une chaîne de magasins, Bloomingdale, qui souhaite établir, en fait, à la fin de cette année-là, une fête de la France. Donc, vous avez ici l'article publicitaire, et pour ce faire, ils veulent créer un numéro spécial du magazine, et ils vont l'éditer avec le New York Magazine. Il s'agit de promouvoir, donc avec ce premier numéro qui est tiré à 90 000 exemplaires, eh bien, la France, mais avec cette fois-ci un vrai travail éditorial qui est mené par des Américains et des Français, avec une vraie collaboration. Une collaboration qui d'ailleurs va perdurer avec Bloomingdale, puisqu'il y a eu, il y a régulièrement des suppléments, notamment celui d'octobre 2005, où on voit les liens qui existent toujours entre annonceurs et la marque. Et ce premier numéro va être un tel succès, il va disparaître en l'espace de quelques jours, que elle, Bloomingdale et le New York Times vont décider eh bien, de publier trois autres numéros qui vont être des semestriaux. Et quand ils vont décider eh bien, de réduire cette périodicité et de passer cette fois-ci à une périodicité mensuelle, eh bien, ils vont devoir travailler avec un autre éditeur de presse qui sera Murdoch, à travers sa société, donc News Corporation. Et là, ils vont éditer non pas une édition mensuelle américaine, mais deux, avec l'édition anglaise qui va apparaître en octobre 1985. Et il faut savoir que toutes les éditions internationales du magazine sont mensuelles, sauf l'édition chinoise qui est bimensuelle. En fait, l'édition chinoise comportait tant de publicité qu'il a fallu scinder le numéro en deux parce qu'il était trop épais. Alors ce magazine américain, il est là pour promouvoir la mode française, mais surtout, on voit bien qu'on a déjà une adaptation locale. Il s'agit de proposer, et je cite Marie-Besse Russell, l'éditrice du LUS, d'informer les lecteurs pour qu'ils puissent faire leur propre sélection, adaptation, pour sortir avec leur propre style très distinctif. Et le message, elle, est alors de vivre avec style. Cette édition américaine est une publication entièrement différente, mettant en avant des talents et des modèles américains pour un public américain. Avec un grand lancement, une campagne publicitaire « No one is as hot as elle »,« No one is as hip as elle », en mettant en avant, bien sûr, des recettes qui ont déjà très bien fonctionné dans la version française, comme les recettes de cuisine sous forme de petites cartes découpables, et les modèles de tricot. Ceci fonctionne parce qu'en fait, on est, selon Gérald de Roquemorel, à ce moment-là, dans les années 80, dans une sorte de processus d'uniformisation, où pour lui, dans le monde entier, les lectrices de Elle voient les mêmes films, utilisent les mêmes produits de beauté, et donc font référence aux mêmes annonceurs potentiels, et s'intéressent aux mêmes tendances de mode. Effectivement, on est dans une internationalisation qui se développe de plus en plus dans les années 80, notamment parce qu'on est dans les suites des chocs pétroliers, avec une baisse très importante du marché publicitaire en France, mais aussi à l'international. On est aussi dans une tendance plus globale d'internationalisation des marques. Elles veulent se faire connaître un peu partout dans le monde. Et quel meilleur support qu'utiliser ces supports de magazines féminins, surtout quand on a une marque qui existe sur plusieurs pays. Donc cette mondialisation des marchés et les évolutions techniques et numériques vont permettre de développer cette internationalisation qui est rendue plus facile grâce à une déréglementation croissante du système mondial, l'arrivée du General Agreement on Trade and Tariff et l'Organisation mondiale du commerce qui vont à la fois permettre le développement et la codification de ces échanges internationaux. Tant et si bien qu'on a un abaissement des barrières tarifaires, on favorise les échanges commerciaux et donc on va pouvoir permettre à ces annonceurs de se développer à l'international plus facilement. Et ces annonceurs recherchent des débouchés à l'étranger et vont du coup incité, elle, à se diffuser de plus en plus largement. D'autant plus que, je vous l'ai dit, depuis 1981, le groupe Hachette a été racheté par Lagardère et bénéficie d'un appui financier beaucoup plus important qui va lui permettre de financer la création de ses filiales, parce que c'est la première manière de créer ses magazines, et donc de bénéficier aussi de l'appui financier pour tout ce qui est campagne publicitaire. Lagardère, dans ce contexte, va développer toute une stratégie plurimédia en s'attachant d'abord aux marchés les plus grands, effectivement les États-Unis, les plus proches comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Europe, mais aussi il s'attache aux pays émergents comme l'Amérique latine, l'Europe de l'Est ou l'Asie. D'abord avec des créations de filiales, des associations de partenaires locaux, des joint ventures et maintenant l'exploitation de licences qui permet donc de réduire les risques financiers. Et pour développer cet aspect de publicitarisation, cette exploitation de licences, ils vont développer une régie publicitaire internationale qui s'appelle Lagardère Global Advertising, qui est en fait dans la branche média du groupe Lagardère et qui couvre en fait, c'est une agence 360 degrés, et bien la presse, Internet, la télévision, la radio, mais aussi des applications mobiles et tablettes sur plus de 46 pays qui permettent donc aux annonceurs de savoir qu'ils seront diffusés sur 80 pays grâce à elles, qu'ils auront des supports annonçant les efforts qui sont faits par elles dans tous ces pays et bien sur tous les supports existants. Tant et si bien qu'après les deux expériences de 85 réussies sur l'Angleterre et les États-Unis, eh bien, ils vont créer donc en Espagne, je ne vais pas tout lire puisque ce serait fastidieux, eh bien voilà, Hong Kong à la Turquie en 99, au Canada jusqu'au Vietnam en 2010, cette licence Lagardère va permettre voilà de diffuser ce magazine. Avec ce, il faut le citer, en 2006, la version orientale du magazine qui existe en français et en anglais et qui va devenir en 2010 aussi diffusée en arabe. Donc vous avez ici à droite un bel exemple. 2010 va en fait marquer le lancement de la dernière édition sous licence Lagardère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le groupe va vendre une partie de ses licences au groupe Hearst. Et les derniers lancements qui permettent de faire 46 éditions, en fait, on les doit à Hearst. En 2013, ils ont relancé la version australienne du magazine. Elle avec Lagardère, avait déjà tenté l'expérience. Il s'était en fait rendu compte qu'il était très difficile. Vous connaissez sans doute un peu le continent australien. C'est un continent qui est extrêmement large et qui connaît des problèmes de distribution. Et du coup, il était difficile à ce moment-là de diffuser correctement le magazine. Et le contexte actuel permet de le diffuser plus rapidement, mais aussi les Australiens sont de plus en plus férus de mode. Il y a même des designers australiens qui sont connus sur place. Et donc, du coup, elle va permettre de promouvoir ses talents locaux. Deux autres créations, donc l'an dernier, la Malaisie et le Kazakhstan. Si on fait une moyenne sur les 46 éditions, on est quasiment à deux éditions par an qui sont publiées. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Ce magazine appartient à la branche Lagardère Active du groupe Lagardère et il va multiplier les licences donc avec Hearst, 18 éditions du magazine Elle, magazine mère, mais aussi des éditions locales de Elle Décoration pour 17 pays. Alors 17 pays, c'est parce qu'en fait il y a deux éditions au Canada, le Elle Canada et le Elle Québec. Aussi des éditions avec de grands groupes médias comme Bourda, Haller, Ringier et des partenaires locaux qui sont un peu moins connus mais qui permettent en fait d'ancrer le magazine très rapidement sur une édition qui va être adaptée au public. Toujours donc dans 26 pays, des éditions de Elle mais aussi du Elle Décoration. Enfin, ce magazine permet d'entrer dans un principe qui est celui de la glocalisation qui me semble en fait plus proche de l'ethnisation et même de la mise en avant d'une vraie richesse culturelle. Ce processus de glocalisation a été mis en avant par Roland Robertson de l'Université d'Aberdeen. Ce sociologue va alors parler d'ajustement de l'offre à un public géographiquement segmenté. C'est vrai pour les premières localisations du magazine. Effectivement, lorsqu'il est localisé en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, on peut parler de géographie. Mais on va voir que progressivement, on va rentrer dans un processus de localisation. On va s'adresser à des publics de plus en plus restreints dans l'espace, mais qui ne se définissent pas complètement par la géographie. Cette localisation, donc, c'est un modèle type qui va être adapté sur différentes cultures en tenant compte des caractéristiques culturelles pour proposer une personnalisation. Et c'est là où elle connaît une vraie richesse, et qu'il permet d'adapter ce modèle de la parisienne tout en conservant la culture locale et les aspirations de ce public. Alors, ce public international, qui elle est-il ? Bien, essentiellement des jeunes femmes, même si on a une vingtaine de pourcents de lecteurs, qui ont entre 18 et 49 ans. Ce sont généralement des femmes actives, de catégories socio-professionnelles supérieures. Ce public international connaît plus de lectrices que de lecteurs par rapport à l'édition française, un public qui est plus jeune. Et du coup, les magazines vont être beaucoup plus orientés sur les aspects mode. Mais on voit bien qu'on offre en fait un contenu qui est segmenté en fonction de ces processus géographiques. Donc, on a un processus de transformation qui se met en place avec ces adaptations locales pour intégrer les aspirations de ces pays d'accueil par rapport au système de référence du magazine Elle au départ, avec l'idée qu'on va y apporter une autre signification, lui apporter une certaine richesse. Donc, il s'agit de comprendre les affinités à la fois sociologiques et idéologiques. La densification de la communication internationale, et là je reprends les propos de Michel Espagne dans son ouvrage « Échanges culturels et relations diplomatiques ». Pour vous montrer cette richesse, on voit bien que je n'ai pris que quelques couvertures. Sur le même numéro, on a des représentations qui sont totalement différentes de la femme, des portraits en pied, des portraits à l'épaule. Voilà, une diversification qui est compliquée à gérer, mais qui montre cette richesse et qui est mise en avant par le magazine sur un site qui s'appelle ellewhoowntheworld.com, qui est vraiment dédié au magazine et au réseau international, en essayant de promouvoir cette diversité et ce qui est disponible dans le monde grâce au magazine. Le contenu général de ces magazines, c'est, pour faire une moyenne, essentiellement de la mode, un peu plus la moitié, bien sûr du divertissement, la célébrité, de la culture, 30%, une culture qui varie d'un pays à l'autre, la beauté, la santé, une vie pratique qui parfois disparaît dans certaines éditions, mais vraiment un dosage qui est spécifique à chaque pays. On a bien sûr un cahier des charges qui est défini par un département qui s'appelle Elle International, qui va définir quels sont les rapports minimum entre ces différentes rubriques. Mais tout fonctionne en fait à partir du Elle France, qui est vraiment le magazine mère, la reine mère. On a des rédactions autonomes pour toutes ces éditions, mais ce département Elle International va travailler en amont en proposant des rencontres régulières avec le magazine Elle pour s'inspirer de cette culture. Pour les nouvelles éditions qui sont lancées, il y a des rencontres qui sont faites avec le magazine mère avant d'avoir leurs propres éditions, et régulièrement des séminaires internationaux qui permettent de diffuser cette culture. Alors, ça dépend des magazines, mais il y a à peu près une moyenne de 20% du contenu éditorial qui est commun, notamment en ce qui concerne les aspects mode et beauté, qui sont aussi les gros annonceurs. C'est d'autant plus vrai parce que les éditions françaises, italiennes, américaines et anglaises vont fournir l'essentiel du contenu, notamment parce qu'elles disposent des quatre grandes fashion weeks qui vont permettre de diffuser cette mode à l'étranger. On a de plus en plus de coproductions entre les différents pays pour réduire les coûts, et une base de données commune qui est réalisée à partir de ces coproductions ou qui est réalisée par Elle International. Le but d'Elle International, c'est d'amener un parfum français. Le point de départ n'est pas le même dans tous les pays, mais il faut que demeure cette idée de la parisienne. Ce Elle France reste vraiment le reine-mère. Il a un format qui est plus important que les autres, une version hebdomadaire qui l'ancre plus dans l'actualité par rapport aux autres, qui contient un peu moins de publicité qu'un certain nombre de ses autres éditions. Et ces rencontres, à l'occasion de chaque nouvelle édition, de chaque changement d'équipe, vont permettre de diffuser cette culture Elle. Ce département, donc Elle International, est dédié au développement à la fois international, mais aussi au management de la marque. On parle plus de titre, mais véritablement d'une marque. parce qu'elle est connue par-delà le magazine lui-même, autour de quatre champs d'action, le rédactionnel, la publication, les productions internationales, la syndication, c'est-à-dire le fait de remanier des articles ou de travailler des photos en fonction des intérêts de différents pays, et enfin la supervision des différentes licences d'édition. Alors, pour vous donner un exemple de contenu, ça peut être tout simplement sur une une de couverture là, avec Kristen Durst. On voit bien qu'il y a même parfois un traitement sur Photoshop qui est un peu différent, notamment dans la version française où les yeux de l'actrice sont un peu plus clairs. Mais ça peut être aussi sur des échanges de concepts. Par exemple, Elle France avait diffusé en avril 2009, vous l'avez peut-être encore en mémoire, un numéro avec trois couvertures. On voyait trois stars qui étaient photographiées par Peter Lindbergh sans maquillage et qui va donner lieu, eh bien, la même année en octobre en Espagne, à quatre couvertures, également à huit femmes connues qui sont photographiées sans maquillage et des lectrices voilà, qui sont... à la fois travailler sous Photoshop et sous maquillage. L'année suivante, c'est Elle Québec qui va reprendre le concept en le développant avec une émission télé qui s'appelle Elle est belle au naturel, avec cette star canadienne, Ima, et des femmes connues, des lectrices, avec des mises en avant d'accessoires. Je vous l'ai dit, de plus en plus de coproduction, mais aussi l'exploitation de shooting. C'est-à-dire qu'on peut avoir des photos identiques diffusées dans différentes éditions, mais aussi différentes photos du même shooting qui sont utilisées dans ces différentes éditions. Vous avez ici deux éditions, donc le Elle UK d'octobre et celui de décembre, qui reprennent en fait la même photo. La photo donc de Coco Rocha, qui va, ce shooting est repris sur LTV, qui est diffusé à l'international grâce à Internet, et on va retrouver pour le Elle UK donc cette même couverture diffusée comme d'autres, enfin comme elle l'avait fait déjà en 2009, plusieurs couvertures pour le même numéro, sachant que plusieurs lectrices, mais, enfin vont acheter plusieurs éditions, plusieurs numéros pour avoir toutes ces belles actrices en couverture. Ce concept est même repris en 2010 par le Elle US. Et on voit bien que la couverture avec Megan Fox en haut à droite est reprise pour la couverture des 16 ans célébrant l'anniversaire du Elle Thailand. Cette même actrice connaît un succès assez intéressant dans Elle. On va la retrouver dans Elle Monde Arabe. Pour la même édition, on va avoir des photos différentes où l'actrice est plus ou moins couverte. Et petit à petit, on voit se dégager un aspect plus local, notamment c'est flagrant dans le monde arabe, avec ces trois éditions, où on voit qu'entre l'édition, vous voyez à gauche, l'édition anglaise et l'édition française, eh bien en fait, on n'a pas le même article. L'article et la photo sur Kevin Klein, pardon, ont été supprimés au profit d'une photo d'un intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on ne doit avoir ni nuque ni genoux. Et comme il n'était pas possible de photoshopper la mannequin, il a fallu remplacer. Et ceci me permet de faire la transition avec cet aspect local, ou même l'ethnisation, qui apparaît de plus en plus. Elle apparaît aussi en France. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a depuis quelques années maintenant, depuis le début des années 2010, un cahier qui est situé à la fin du magazine, qui permet de proposer eh bien, des adresses sur Paris, et qui est adapté partout en France. Vous avez un L Bretagne, le dernier, c'est le L Alsace, donc 11 éditions qui permettent aussi d'accueillir de la publicité locale. Ce concept de cahier est repris aussi pour le L Suisse, qui n'a pas d'édition L particulière, qui se trouve cette fois-ci en ouverture du magazine pour marquer son ancrage culturel. Il est diffusé à 25 000 exemplaires en étant bimensuel en Suisse, puisqu'il est sur en fait l'exemplaire français. Un cahier de 12 pages. Et pour la Suisse alémanique, on va être dans le L Deutsch avec 35 000 exemplaires, mais cette fois-ci mensuel, puisque l'édition allemande est elle aussi allemande. Et oui. Alors, pour vous montrer aussi cette localisation, c'est aussi la création sur un même territoire de deux éditions pour répondre à des enjeux culturels. Vous avez, je vous l'ai dit, un L Canada et un L Québec. Et pour la même date d'édition, le même mois, vous avez des unes qui sont totalement différentes. De même pour la Belgique, vous avez l'édition wallonne et l'édition flamande qui vont avoir quelques sujets communs, mais qui sont différents dans leur construction, même si elles ont une partie de la rédaction qui est commune. De même en Chine, malgré le rattachement d'Hong Kong, on a deux éditions, un L Chine et un L Hong Kong. Pour conclure sur ces aspects d'internationalisation, on le voit bien, comme le dit Armand Matelard, que ces publics sont essentiellement et constamment internationaux. On a effectivement des publics qui lisent des marques internationales parce qu'elles vont y retrouver des articles qui traitent de l'international, mais de ces marques internationales. Une dissémination des lecteurs dans le monde, au point que les relais en ligne va permettre, en fait, de ce kiosque va permettre de diffuser des éditions internationales à l'étranger. C'est-à-dire qu'en France, on peut avoir, grâce à ce kiosque numérique, des éditions internationales. On a des publics transnationaux, car des intérêts mondiaux, à la fois en termes d'annonceurs, mais aussi d'informations, ce qui nous permet de développer ces 46 éditions, mais ce qu'on voit bien, c'est que ce nouvel ordre culturel ne produit plus de standardisation culturelle. Ce qui était l'apanage pour Gérald de Roquemorel de cette uniformisation n'est pas du tout, n'est plus une réalité. On est plutôt dans un univers de diversité, de fragmentation culturelle de plus en plus précise, et elle s'adapte dans son sens. Une fragmentation nationale qui reste dominante, mais qui se spécifie régionalement. Donc une domination culturelle qui, du coup, va trouver son pendant sur le numérique, notamment avec le développement d'interactivité entre lectrices et annonceurs, qui permet aussi à la marque de se développer. Une reconnaissance de la singularité des cultures comme source d'identité, de sens, de dignité et d'innovation sociale. Une oscillation entre le global et le local. Voilà, on a un numéro global qui s'adresse à tout le monde et on le localise avec des cahiers, qui est la règle des médias dits globaux parce qu'ils veulent élargir leurs audiences, mais on reste en fait dans une tension entre local et culture. Qu'est-ce qu'on peut diffuser à l'international, quel que soit le magazine? Qu'est-ce qu'il faut faire perdurer la culture? Et d'un point de vue à la fois global, qu'est-ce qui relève d'une tension autour du commerce et autour du profit? Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour vos interventions absolument passionnantes. Ma question s'adresse à Sophie Chapdelaine. Au niveau des bureaux de style, est-ce que c'est véritablement dans les années... Est-ce que Mayemé Arnaudin initie le modèle ou est-ce que c'était des agences qui existaient déjà, pour certaines d'entre elles déjà célèbres, ou véritablement c'est une innovation de Mayemé Arnaudin?
Non, c'est pas une innovation de Mayemé Arnaudin. Il existait des agences de style, il y avait Claude Decoux, il y avait Relations Textiles, donc elle n'est pas innovante. Et comme Thierry Maillet l'a montré dans sa thèse sur les échantillonneurs textiles, ce processus a été initié bien avant. Ce qui s'articule à ce moment-là, c'est l'articulation entre la presse, le bureau de style et l'industrie. Et donc il y a une sorte d'effet tout à fait spectaculaire de la présence dans Elle, par exemple, qui est visuellement très frappante, voilà, de tout ce qui sort de ce bureau de style. Donc, elle n'a pas inventé ça. Elle a inventé un cahier de coloris, c'est des choses qui existaient déjà. Mais elle a compris, comme journaliste, elle a compris que le problème était un problème qui se situait en amont. Et donc, elle s'adresse à la filière, au filateur, aux tisseurs. Et donc, c'est ce que disait, c'est la citation que je donnais de cet ancien de Valac, un imprimeur sur tissu de l'Est de la France. C'était tout à fait... l'articulation avait des effets spectaculaires en termes de commandes, de publicité. Et voilà, Mayemé Arnaudin a eu un rôle important, mais elle n'était pas la seule. Il y avait beaucoup d'autres bureaux de style. Beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais il y avait des bureaux de style qui existaient.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ma question s'adresse également à Sophie Chapdelaine. Je voulais savoir si ce modèle d'agence est adossé à un magazine existe aujourd'hui encore.
Je ne sais pas si je dirais que c'est toute l'ambiguïté de la chose. C'est un bureau de style n'était pas adossé à Elle. Il s'est trouvé que il y avait des intérêts communs et une entente commune sur ce qu'on entendait par style et ce que l'on voulait comme ce qu'on voulait voir émerger entre le magazine Elle et le bureau de style de Maïmé Arnaudin. Mais il n'y avait pas vraiment d'accord, c'est toute l'ambiguïté de la chose. Ça a été perçu comme quelque chose qui était adossé, mais il y avait une volonté commune, et puis il n'y avait personne d'autre qui le faisait. Monoprix n'avait pas de bureau de style, et n'a pas été capable de... n'avait pas cette création de diversité, comme je le montrais. Aujourd'hui, le modèle est complètement différent. Et WGSN a complètement changé la donne. Donc non, je ne pense pas que cette articulation soit la même. C'est la grande difficulté des bureaux de tendance. Qu'effectivement, ça s'enclenche de façon très complexe et absolument pas automatique. Le marché est complètement différent. Question ?
Merci à vous deux. Ma question s'adresse à Karine Grandpierre. Je me demandais si les éditions locales se sentent une responsabilité ou disons une mission au niveau de faire la promotion des créateurs locaux, parce que évidemment les annonceurs ils sont principalement internationaux.
Alors, les grands, enfin, ils font la promotion des Fashion Week avec des grandes marques internationales, mais en fait oui, ils font de plus en plus, et c'est là aussi on est dans la localisation, la promotion des acteurs locaux, parce qu'ils savent que c'est un ancrage qui leur permet aussi de toucher la population auquel ils s'adressent en fait. Leur parler de grandes marques qui sont fabriquées ailleurs ne les intéresse absolument pas. On a, par exemple, le L-Inde se développe notamment parce qu'il y a une expansion de la mode en Inde. Et il s'agit de promouvoir ces stylistes qui apparaissent. Et le peu que j'ai réussi à lire, parce que je ne maîtrise pas toutes ces langues, il s'agit effectivement dans toutes ces éditions de promouvoir le local pour s'ancrer, mais de présenter tout. Voilà, c'est vraiment le phénomène de publicitarisation, s'ancre dans le local, pour pouvoir proposer d'aménager le discours pour les acteurs locaux qui vont financer les espaces publicitaires et qui payent plus de la moitié du journal.
Merci.
Je vous en prie.
Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une question sur Elle et sur les relations de la publicité et l'internationalisation du magazine, en d'autres termes. Est-ce qu'il y a des accords globaux avec des agences publicitaires pour les différents magazines dans les différents pays, avec des agences globales aussi ? Est-ce que je suis clair ?
Oui. Je vais répondre et vous me direz si j'ai répondu à votre question. On saura comme ça si on était clair l'un l'autre. Lagardère Active travaille avec un certain nombre d'annonceurs. Il travaille aussi avec Hearst Publishing et Hearst Advertising. Donc les deux grandes régies amènent de la publicité à toutes les éditions internationales. Et ils vont en plus proposer, c'est vraiment une grosse tendance maintenant des régies publicitaires, eh bien de proposer, alors pas simplement des communiqués publicités, mais des encarts publicitaires, des collaborations pour des mini-journaux, avec la figure Elle, par exemple l'Irak l'a fait dernièrement. Et voilà, il s'agit toujours d'aménager ce contenu pour qu'il s'adapte de plus en plus aux transformations, avec l'idée que derrière le discours des journalistes, on sait qu'on ne peut pas toujours leur faire confiance. Il y a la concurrence des blogs, dont on a l'impression que le discours est beaucoup plus, moins vendu à ces acteurs commerciaux. Donc il y a toujours cet aspect-là qui existe. Mais le fait est qu'il y a de plus en plus de travail sur la mise en scène de ces publicités.
Oui, ma question s'adresse à Karine. Vous n'avez pas parlé des photographes de mode et du rôle joué par les photographes de mode dans l'internationalisation, puisqu'on retrouve à peu près les mêmes noms dans tous les magazines. Vous pourriez préciser un petit peu, s'il vous plaît ?
Oui. Alors, en fait, ça rentre dans le cadre notamment du L International Department, qui permet d'avoir ces grands photographes qui photographient de par le monde des modèles, des vêtements, des accessoires, et une grande partie de ce qui est photographié va sur cette base de données. cette base de données qui, du coup, est retravaillée pour mettre en avant ces grands photographes. Effectivement, Peter Lindbergh régulièrement apparaît dans quasiment toutes les éditions internationales parce que ses photos et sa patte sont presque connues à l'international. Mais je ne peux pas vous dire précisément quelle est la part de ces photographes dans l'internationalisation au-delà de ces grands noms.
Bonjour, ma question s'adresse à vous deux. Vous avez parlé de la diffusion de l'image de la Parisienne par le magazine Elle, en fait ce support qui sert à diffuser cette image. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'image de la Parisienne est devenue un mythe et un fonds de commerce?
Pour moi, ça a toujours été un mythe et un fonds de commerce, en fait. Le peu que je connais de la mode, pour moi, la Parisienne a commencé à naître non pas avec une Parisienne, mais plutôt avec Marie-Antoinette et la collaboration avec Rose Bertin. Et donc, voilà, c'est vraiment un mythe qui a été mis en avant et qui l'est d'autant plus par ces magazines qui essayent de s'internationaliser parce que c'est aussi leur fonds de commerce. Il faut qu'ils nous fassent rêver, ils nous font rêver avec ces grands créateurs, mais ils nous font aussi rêver avec Inès de la Frésange qui va représenter la Parisienne à l'international. Mais on est effectivement dans un mythe. Et un mythe qu'il ne faut surtout pas déconstruire parce que c'est ce sur quoi repose le magazine et la mode française aussi. Pas simplement. Oui, mais on le voit aussi dans ces magazines qui ne font pas apparaître que la mode française, et heureusement. On voit d'autres créateurs étrangers émerger, et aussi grâce aux éditions internationales qui ramènent des stylistes qu'on n'aurait sans doute pas vus autrement. Je crois que vous aviez une question pour Sophie.
Alors, moi, je voulais poser cette question à Karine, effectivement. Mais effectivement, c'est une totale construction, la Parisienne. On le voit au XIXe siècle, les cartes de visite. Il y en a certains exemplaires qui sont en ce moment au musée d'Orsay, dans l'exposition sur Splendeur et misère, sur la prostitution au XIXe siècle, au moment de la Belle Époque. La figure de la Parisienne est construite, elle est mise en scène. Elle est absolument mise en scène, donc c'est absolument pas nouveau. Moi, j'avais cette question pour vous. Effectivement, comment sont faites les séries sur la Parisienne? Est-ce qu'il y a une adaptation de la Parisienne qui est faite localement, dans les éditions locales, ou c'est quelque chose qui émerge de Elle France, de la Reine-Mère, et qui ensuite est reprise in extenso, ou est-ce qu'il y a des adaptations?
En fait, ce modèle de la Parisienne, il apparaît plutôt dans j'appellerais pas ça des hommages, ni vraiment, véritablement des numéros spéciaux, mais quand il s'agit de promouvoir la mode française à l'étranger dans ses éditions, alors on va voir apparaître le croissant, la baguette, le béret, et très stéréotypé, l'uniforme du policier. Voilà, c'est autour de ça. Et après, la mise en valeur des couleurs du drapeau, le blanc, le rouge, qui vont ressortir dans ces séries. Bien sûr, il y a tous les stylistes français qui apparaissent, mais on met en avant ces couleurs-là, où on va mettre en avant, mettons, Jean-Paul Gaultier, mais avec, quelque part derrière, le drapeau français qui apparaît pour bien permettre d'ancrer dans ce mythe de la Parisienne, la France. Merci.
Bonjour, c'est une question pour Sophie Chapdelaine. Je voulais savoir quels étaient les rôles respectifs de Mafia et de la rédaction dans Les Bons Magiques et la boutique Elle, et les boutiques Elle.
Je ne pense pas qu'il y ait eu de rôle de Mafia. Les Bons Magiques, c'était à ce moment-là, mais je ne pourrais pas vous répondre, mais je ne crois pas.
C'était des créations donc uniquement commerciales, parrainées par la rédaction ou créées par les stylistes?
Peut-être Sophie pourrait plus répondre.
On demandera à Claude Brouet, je pense qu'elle sera beaucoup plus à même oui. De répondre, mais je ne pense pas que c'était, dans mon souvenir, c'était pas... des stylistes qui étaient associés au Bon Magique. Je pense que c'était plutôt du prêt-à-porter assez basique.
Non, en fait, oui, j'y pense maintenant. Les Mafias est créé en 68. Non, non, il n'y avait plus. Enfin, je ne sais pas s'il n'y avait plus.
Voilà.
Voilà. Mais c'est ça. Mais en fait, les stylistes, en fait, Claude Brouet le racontera, je pense. Mais par exemple, qu'est-ce que c'était que le Bon Magique? à un moment, Emmanuelle Kahn est en train de défiler pour Balenciaga. Elle laisse faire les architectures de Balenciaga super parce que elle aime pas ça au fond. Et qu'est-ce qu'elle porte? Quelque chose qu'elle a cousu elle-même, une espèce de petite robe assez, enfin un chemisier avec un col un peu long. Claude Brouet remarque la façon dont cette mannequin s'habille pour sortir du défilé, et elle lui dit oh, mais c'est merveilleux, tu veux pas qu'on en fasse un bon? Et donc hop, il passe au journal et il y a un dessin, et puis ça devient un bon magique.
Un bon magique, c'était... Dominique, vous voulez peut-être... Allez-y. Alors, un bon magique, donc, il est créé en octobre 48, et c'était, à l'origine, c'était un petit tampon, un timbre, qui apparaissait sur certaines pages du magazine, où on pouvait le découper. Les lectrices se découpaient, ils pouvaient aller dans le magasin, chercher le vêtement en question, qui était présenté sur le bon, avec une réduction. Au début, c'était juste pour attirer l'attention sur un style, quelque chose de particulier, une couleur, et ensuite, c'était une réduction réservée aux lectrices de L. On en parlera cet après-midi. Et une dernière question. Je vous laisse le micro.
Bonjour. Alors, c'est une question pour Karine. En fait, j'ai deux petites questions. Et je ne suis pas sûre si tu as fait l'exploration assez poussée pour pouvoir y répondre, mais bon. Pour la Chine, tu as parlé un tout petit peu de la Chine, mais pas beaucoup. Alors, je me demandais, dans ces stratégies internationales de publicité, où est-ce que se situe la Chine? Est-ce qu'ils acceptent des publicités qui viennent de l'extérieur? Je veux dire dans Elle, évidemment, parce que tu nous as dit qu'il y avait deux numéros par mois parce qu'il y avait tellement de publicités. Alors, où est-ce que la Chine se situe? Et la deuxième question, c'est plus pour les contenus. Tu nous as montré des pages couverture du Japon, de la Chine, de l'Égypte, et on dirait que toutes les femmes se ressemblent. Alors, est-ce qu'on s'adapte à l'aspect culturel des femmes selon les pays, où est-ce qu'on impose cette parisienne universelle partout?
Alors, en fait, je vais te répondre, mais en prenant l'exemple de la Chine qui est valable pour les deux, en fait. Alors, la Chine, les femmes chinoises sont très consommatrices de produits de beauté. Et elles apprécient énormément la mode occidentale et par-delà le fait de se faire débrider les yeux, elles aiment aussi se maquiller et utiliser les produits de beauté occidentaux. Donc du coup, il y a un vrai marché qui existe là-bas. Et la présentation de ces mannequins, j'en ai discuté avec une étudiante chinoise qui a travaillé un petit peu sur elle, Chine, et à qui je demandais, mais ça n'est tout de même pas curieux de ne voir que des actrices ou des top modèles caucasiennes apparaître en couverture. Donc elle a fait tout un questionnaire s'adressant aux Chinoises. Et en fait, les retours qu'elle a eus, c'est que ça ne les dérangeait absolument pas. Pour elle, c'était en fait une sorte de norme qui était en place et que elle n'y voyait pas une différence. Et ça leur permettait de voir un modèle auquel elle devait s'identifier. Mais le fait est que depuis plusieurs années, le magazine tend à avoir de plus en plus des actrices ou des top modèles chinoises qui commencent à avoir la bonne taille et qui apparaissent dans ce magazine aussi.
Excusez-moi, je n'ai pas vu trace d'édition africaine. Africaine.
Il y a une édition
en
Afrique du Sud.
Oui, non, mais en Afrique... Je ne vais pas dire en Afrique noire, mais il n'y a pas de...
La difficulté, c'est qu'en Afrique... Alors, vous avez tout de même la version L orientale qui est en partie diffusée, notamment au Maghreb. L'autre difficulté, c'est que ces pays ne constituent pas encore de marché, à proprement parler. Même si les femmes de couleur ont un pouvoir d'achat plus important sur les produits de beauté que la caucasienne, il n'en demeure pas moins que sur ces pays, le marché n'est pas encore assez important pour pouvoir se développer. Et même si elle met en avant des stylistes d'origine africaine, c'est de plus en plus la tendance, mais pour l'instant, ils n'existent pas. Et ce sont plutôt des journaux, des adaptations de journaux en fait, d'origine africaine, notamment des journaux américains, qui vont être diffusés localement. Mais il y a en fait très très peu, c'est le déficit de marché qui explique aussi cette absence.
Merci.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Alors, merci.